Bonjour, j'ai écrit il y a 2 ans un roman, Anita. Je me propose de vous le lire. Épisode 3.
Ta mère, c'est vrai que c'est une sorcière?
C'était moins la question qui avait abasourdi Anita que la manière qu'avait eu le visage des filles de se transformer sur la fin de la diatribe. Leurs yeux s'étaient resserrés sur eux-mêmes, l'air d'être plus foncé, plus scintillant. Leurs bouches s'étaient plissées, leurs lèvres légèrement retroussées, laissant apparaître l'éclat de leurs dents. Elle n'avait pas répondu à la question, qui ne lui avait jamais été posée et à laquelle elle n'avait jamais réfléchi. Elle s'était contentée de secouer la tête en reculant. Inès, reprise en canon par son amie, s'était mise à scander.
La mère d'Anita est une sorcière, la grand-mère d'Anita est une sorcière, la Sambra est une sorcière, la mère de la Sambra est une sorcière, Anita fille de sorcière, Anita fille du diable, c'est lui le père d'Anita, c'est le diable il a culbuté la sorcière Sambra, et voilà, ça a fait Anita.
Et Anita continuait de reculer en secouant la tête. Elle n'osait pas tourner le dos de peur que l'une des filles l'attrape par les cheveux. Et son pied se prit dans une racine du platane. Anita tomba à la renverse. Les enfants proches et moins proches s'étaient assemblés. Un cercle s'était formé autour d'Anita, toujours abasourdie, et maintenant les fesses par terre, qui essayait de comprendre ce qui se passait, luttant pour réfléchir entre les cris et les quolibets, les yeux écarquillés pour bien tout voir. Anita avait très peur. Son cœur battait à tout rompre, lui envoyant un goût de fer dans la bouche. Sa respiration était aussi affolée qu'après une course. Elle avait peur d'avoir mal parce que ces cailloux que certains et certaines commençaient à ramasser et ces morceaux de bois lui étaient très certainement destinés. La voix de la Turque, qu'on entend si peu souvent qu'on l'imagine fluette, se met à tonner d'une puissance divine. Elle sort du plus profond de sa gorge, passe comme une cavalerie les parois de sa bouche pour se répercuter contre les murs de l'école, les murs de la cour et sûrement même faire trembler un peu le platane, ce dont personne n'aura eu l'occasion de se rendre compte, tout le monde étant trop pris par la stupéfaction. Tout ça a même fait sortir l'institutrice avec ses cheveux blancs, ses rides et ses lunettes. L'instituteur avec sa chemise, son léger embonpoint et sa serviette encore au cou. Et la directrice avec ses chaussures à hauts talons, son collier en or et sa peau parfaite. L'onde de choc est comme un réveil pour les gamins et celles et ceux qui avaient pris des cailloux et des morceaux de bois avec la ferme intention de les jeter sur la victime de leur concile enfantin, les lâchent prestement. On ne saurait pas dire, et eux non plus ne savent pas, s'ils les lâchent parce qu'ils se font d'un coup horreur d'avoir formé ce projet de lynchage, ou plus simplement parce qu'ils craignent les remontrances si on les attrape les armes à la main. La demoiselle qu'on peut croire être à l'origine de tout ça, puisque c'est elle qui est allée chercher Anita, accompagnée de sa suivante, frissonne. Depuis le creux des genoux jusqu'aux racines de ses longs cheveux, elle frissonne. Rien à voir avec le froid, puisqu'il fait vraiment bon, rien à voir avec la peur ni avec le regret, ce qui la parcourt du bas vers le haut, ce sont comme des décharges électriques, des soubresauts de rage qui essaient de s'échapper de son corps frêle. Inès est frustrée de n'être pas allée plus loin, qu'on ne lui en laissât pas le temps, et euphorique. C'est, pense-t-elle, l'expérience la plus incroyable de ses 10 ans de vie. Elle a réussi à construire sa meute et à diriger sa colère contre la victime parfaite. Victime, ce n'est pas un mot qu'Inès utiliserait pour qualifier Anita, car si cette enfant est victime de la colère de la meute, c'est parce qu'elle est elle-même un danger pour chacun de ses membres, qui est plutôt un troupeau en temps habituel. Inès est une enfant politique, comme sa mère. Elle voit loin, elle voit large, elle distingue les mouvements généraux, les flux et les obstacles. Elle est capable d'imaginer des orientations, des caps et de les maintenir. La jeune fille fera un malheur l'année prochaine au collège, quand elle sera élue déléguée de classe. Elle a bien appris de sa mère et de son père, qui est toujours d'accord avec sa mère, qui lui ont expliqué les concepts de tolérance, de différence, de marginalité et de normalité. Inès visualise très bien la majorité, qui représente la normalité.
La normalité diffère selon les régions du monde et les coutumes. La tolérance consiste à dire que toutes les coutumes se valent, en tout cas qu'elles doivent être respectées. La marginalité, ce sont les gens qui s'emploient à exister en dehors des règles et des coutumes prônées par la majorité. Il faut aussi de la tolérance pour ces gens, tout en veillant à ce que la tolérance ne devienne pas du laxisme. Le laxisme, c'est laisser faire des choses qui ne devraient pas être faites par peur des représailles d'une communauté. Une communauté, ce sont des marginaux regroupés qui ont la même pratique de leur marginalité. Ça peut être parce qu'ils sont étrangers à la région et qu'ils viennent d'un même ailleurs mondial. Ils sont soit en voie d'intégration, ce qui est bien et prend du temps, soit en rébellion. L'intégration, c'est se défaire de sa marginalité pour adopter le mode de vie de la majorité. Mais des fois, ils le font par refus de la majorité. Et alors, c'est la rébellion, c'est dangereux. De même pour les marginaux qui le sont parce qu'ils pratiquent des types particuliers de rapports sexuels. Inès n'est pas très au clair sur ça. Ou parce qu'ils et elles ne veulent pas faire ce que le fait d'être un garçon ou une fille implique. Pas très clair pour Inès non plus. Ou, comme Anita, les marginaux de naissance. Celles et ceux dont on ne peut rien attendre parce que leur histoire est trop chargée. C'est-à-dire, pour Anita, l'histoire de sa mère sans bras, de son père inconnu, du refus de sa mère de s'intégrer, du refus d'Anita de s'intégrer. La mère conseillère municipale a dit à sa fille que parfois, c'est dans les gènes, et alors il vaut mieux prévenir parce que tôt ou tard, ça explose et c'est difficile à guérir. Il faut montrer à la personne qu'on l'a à l'œil. La demoiselle, en ce sens, a parfaitement réussi sa mission.
Anita, de nouveau assise à sa table, dans la classe, seule, puisque le nombre d'élèves est impair et que c'est tout naturellement qu'elle a pris la place solitaire en début d'année scolaire, a bien de la peine à suivre ce que raconte l'instituteur. Celui-ci, debout devant le tableau, évite de croiser le regard éberlué de l'élève qu'il a vu se faire tyranniser dans la cour. Jean a toujours eu des difficultés à gérer et digérer la barbarie des élèves entre eux, et chacune de ses expressions le met dans un inconfort qu'il ne sait pas bien négocier. Son rôle d'instituteur aurait voulu qu'il sache, avant d'entamer ce cours d'histoire, faire un point avec les élèves sur ce qui s'était passé dans la cour, laisser la parole éclore, aider à résoudre quelques conflits larvés et interrogations souterraines. Cependant, il ne se sent pas capable d'être cet homme-là, parce qu'il ne se sent pas capable de tout entendre et d'envisager tout propos comme légitime à être tenu et légitime à demander une réponse argumentée. Sa volonté affirmée de ne faire classe qu'aux deux premiers niveaux de primaire tient aussi du fait, dont il a pris connaissance au long des années, que si les petits peuvent être amenés à dire des horreurs, il suffit souvent de leur rétorquer que ce qu'ils profèrent est mal pour qu'ils le croient. Par acquis de conscience, l'instituteur peut, dans ces cas, inventer une histoire ou s'appuyer sur une autre déjà existante avec des animaux, par exemple, qui étayent son affirmation. C'est sale, ce n'est pas bien, ce n'est pas gentil, gros yeux, exemple culpabilisateur, et c'est fini. Mais le cas qui se présente aujourd'hui implique surtout des plus grands, ces petits à lui ayant été, à part la victime, des témoins zélés plus que des agresseurs empressés. Et les plus grands qui se sont jetés à pieds joints dans la séance d'humiliation ont une demande de raisonnement plus importante.
Il et elle ont appris, en grandissant, à tenir leurs idées pour acquises. C'est quelque chose qui vient finalement très tôt dans la vie, deviennent têtus et souvent arrogants. Il et elle ont eu plus de temps que leurs cadets pour observer les adultes de leur entourage s'obstiner sur des concepts vagues, de grandes idées, des questions qui devraient emporter l'adhésion d'une nation tout entière, voire des prises de position qui pourraient entraîner le malheur de nombre d'êtres humains avec un aplomb formidable. Il et elle ont vu les adultes de leur entourage être politiques, être juges, être bourreaux, assénant des poings sur les tables à en faire tomber les verres. Ont vu des adultes dans une même pièce s'affronter et avoir raison de deux manières diamétralement opposées et ne pas bouger d'un iota. Et ont compris que les idées et les avis étaient comme des vêtements. Tant qu'on les porte, on le fait avec fierté et dignité. Et ces enfants ont souvent déjà eu l'intuition, si ce n'est la preuve pour certains, que ces idées si chèrement défendues peuvent être interchangées, transformées, contredites dans le discours suivant, si on est assez habile dans ses références au sacro-saint contexte.
Jean se contente d'écrire des mots au tableau. Il sait bien que dans son dos, Anita écrit sans comprendre ce qu'elle fait et qu'elle aura bien du mal quand il lui faudra apprendre sa leçon à comprendre à quoi le code couleur se rattache. Il prend alors une grande inspiration qui lui fait se soulever les épaules, mais personne n'y fait attention, cet homme étant du genre à soupirer souvent, profondément et bruyamment, comme une vieille machine solide mais un peu fatiguée. Jean ne soupire pourtant pas. Il retient l'air dans sa cage thoracique, empêchant qu'il s'en aille et ouvre la porte à la fuite du courage qu'il vient d'emmagasiner. comme il s'agit de ne pas être insensible et de ne pas s'avouer absolument vaincu par une sorte de lâcheté quotidienne, il prend la ferme résolution, en écrivant « morale » sur le tableau, de prendre un temps pour parler de l'événement de ce midi. Il se retourne, lentement, en expirant l'air pris au piège de ses poumons en un petit filet très serré, en formant dans son esprit amolli par la digestion et la crainte de déclencher une tempête langagière qui ne ferait qu'aggraver la situation d'Anita au sein du groupe, les bonnes phrases. Quand un événement inattendu le sauve en même temps qu'il le plonge dans la perplexité. Anita se lève de sa place, silencieusement, et une fois bien droite, susurre « Est-ce que je pourrais aller aux toilettes ?» C'est la première fois depuis 2 ans qu'il lui fait classe que l'instituteur voit Anita prendre la parole pour autre chose que donner une réponse, ce qui explique la seconde de silence qu'il prend avant de lui répondre. Le garçon roux du premier rang, excité sûrement par le cercle de tout à l'heure, la puissance qu'il y a ressentie et les restes d'électricité qui parcourent son corps, se retourne vers Anita et entame une blague qu'il a entendue le matin même.
« Eh bah ta mère, quand elle va aux toilettes ?»
Cependant, le garçon roux est obligé de s'arrêter en si bon chemin et a la surprise de voir Anita tomber par terre sans connaissance avec la lourdeur du gibier qu'on abat. Quand il se retourne, interloqué vers l'instituteur, il a la deuxième surprise de se voir administrer une baffe aussi brutale qu'elle est incontrôlée. Jean n'a pas pu retenir sa main. Le gamin est tombé de son siège et se relève péniblement. Toute la classe a le souffle suspendu. L'instituteur se dirige prestement vers Anita, qui se réveille quand il la secoue. Du nez de la jeune fille perlent des gouttes de sang. C'est la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je vous retrouve demain et en attendant, prenez soin de vous et des autres.